Pour chaque regard, je reprends. Pour chaque regard sur soi-même, jeter 10 regards sur Jésus. Ce sont là les mots de Robert Murray McShane, que vous connaissez peut-être. Il a écrit un système de lecture de la Bible. Il était pasteur en Écosse la première moitié du 19e siècle. Il est né à Edinburgh en 1813. Mais ce qui frappe au sujet de sa vie, c'est qu'il n'avait que 29 ans quand il est mort. On se souvient de lui, on se souvient de son nom. Des gens lisent encore ce qu'il a écrit. Par exemple, ils suivent son plan de lecture de la Bible, recommandé par Don Carson d'ailleurs. Il est mort de typhus en 1843. Deux ans plus tard, son ami et collègue ministre, nommé Andrew Bonner, a publié Mémoire and Remains of the Reverend Robert Murray McShane, qui, avec le temps, a été publié dans plus d'une centaine d'éditions différentes en anglais. Et dans ce livre de Bonner apparaît une lettre que McShane avait écrite à un ami. Je veux en lire deux paragraphes. Extrait de cette lettre, c'est là que vient la fameuse citation de McShane, mais le contexte est riche. Il dit à son ami, apprenez beaucoup au sujet du Seigneur Jésus. Pour chaque regard sur vous-même, jetez 10 regards sur Christ. Il est tout à fait adorable. Une telle majesté infinie. Et pourtant, une telle douceur et une telle grâce. Et tout cela pour des pécheurs, même le chef des pécheurs. Vivez beaucoup dans les sourires de Dieu. Imprégnez-vous de ses rayons. Ressentez son œil tout-puissant se poser sur vous avec amour et reposez-vous dans ses bras tout-puissants. Laissez votre âme être remplie d'un sentiment ravissant pour le cœur et la douceur de l'excellence du Christ et de tout ce qui est en lui. Laissez le Saint-Esprit remplir chaque chambre de votre cœur et ainsi il n'y aura pas de place pour la folie, pour le monde, pour Satan ou pour la chair. Donc, pour chaque regard sur soi-même, 10 regards sur Christ. Et je soupçonne que le conseil de Robert Murray McShane à son ami était frappant, même à son époque. Mais aujourd'hui, quelques 180 ans plus tard, qu'en penser alors que nous vivons une époque si saturée et dominée par le moi tout-puissant? Quelle ruse il y a là! Donc, 10 regards vers Christ pour chaque regard vers soi-même, c'était déjà un propos contre-culturel à l'époque de McShane, et combien plus cela est le cas pour nous maintenant? Et quelle guérison pourrait-il y avoir pour nous, pour nos âmes maintenant, en suivant son conseil? À quel point sommes-nous appauvris pour nos fixations subtiles et manifestes sur nous-mêmes et nos fascinations aussi pour nous-mêmes, alors que nous vivons dans une génération qui nourrit l'amour de soi en nous et qui cultive un amour de soi que nous n'oserions même pas avoir si on n'était pas si encouragé par la société de l'entretenir. Je veux donc vous demander de m'accompagner en un voyage ce soir. Je vous invite en ces moments, en autant que vous le pouvez, de mettre le soi de côté et ensemble, jetons 10 regards sur Jésus. Alors, dans la première séance ce soir, on va jeter 5 regards sur Jésus depuis l'éternité passée jusqu'à la croix. Ensuite, il y aura une pause. On reviendra pour une deuxième séance, partant de la résurrection jusqu'à l'éternité future. Et avec chaque regard sur Jésus, je vais essayer de l'ancrer dans un texte biblique clé. Plus d'un sera cité pour chaque regard, mais il y en aura un de base. Et je vais essayer de vous donner un terme clé que l'on pourrait associer à chacun de ces regards sur Jésus. Alors, 10 regards sur Jésus. Voilà le programme. Prions que Dieu bénisse notre temps, Père au ciel. Nous voulons, du moins pour ce soir, suivre le conseil de ce cher frère décédé, conseil de donné il y a presque 200 ans, je te demande de nous renforcer, de nous bénir, nous éclairer, nous habiliter, nous réveiller. Alors que nous allons regarder à ton Fils, nous voulons voir sa gloire. Nous nous émerveiller devant qui il est, ce qu'il nous montre de toi. Donc, à mesure que nous prenons ces regards sur Jésus, que tu sois honoré par la puissance de ton esprit et de ta parole, et nous aider dans ces moments ensemble au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, le regard numéro un, on part. Il ravissait son Père avant même la création. Il le ravissait ou le réjouissait avant la création. Non seulement a-t-il existé avant la création avec toutes les conséquences pour sa divinité, mais en titre de Fils divin, il a réjoui son Père. Et nous allons voir. Alors, débutons avec le texte de base, Jean 1, 1 à 3. Au commencement, la parole existait déjà. La parole avec une majuscule, le Fils divin, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je cite dans le second 21, la Bible que vous utilisez pour la lecture ici, donc Jésus, le Fils divin, avant même d'être homme, existait au commencement avec Dieu le Père. Et Jean nous dit, bon, tout d'abord, qu'il était avec Dieu. Face à lui. Et deux, qu'il était Dieu lui-même, qu'il était divin. Avant que quoi que ce soit ne soit créé, il était, il existait. Toutes choses ont été faites par lui. Et si ça ne suffisait pas, il veut être sûr qu'on a bien compris, sans lui, rien de ce qui a été fait, de ce qui a été fait, n'a été fait. Donc, il n'est pas fait, lui. Le Verbe, le Fils divin, n'a pas été fait. Il n'a pas été créé. Il est lui-même Dieu. C'est le propre compagnon de Dieu et la personne propre de Dieu. Alors, notre terme clé pour ce premier regard est donc préexistence. Le Fils divin, deuxième personne de la Trinité, celle que nous connaissons maintenant sous le nom de Jésus de Nazareth ou de Christ, a préexisté sa vie sur terre, avant de venir chez nous, avant d'exister en tant qu'homme, il existait avant, il préexistait. Et nous voyons ça profondément ancré de diverses façons tout au long du Nouveau Testament. Voici toi, en vertu desquels les auteurs du Nouveau Testament témoignent de sa préexistence. Tout d'abord, il est venu. On répète le fait qu'il est devenu. Ça veut dire qu'il était ailleurs et qu'il est venu vers nous, d'une façon que nous n'avons pas fait. Nous avons débuté, nous ne sommes pas venus du ciel. Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jean 3, 13, là, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, Hébreux 10, 5, en entrant dans le monde, Christ dit, dans Timothée 1, 15, Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, il était au ciel avec son Père, éternellement avec lui, et il est venu. Deuxièmement, il a été envoyé. Vous voyez le lien? C'est différent de simplement envoyer un prophète qui aurait pu être envoyé comme Jérémie qui est parti de sa ville natale, Nazareth, qui était là. Il n'a pas été envoyé d'un endroit à un autre, mais du ciel. Galates 4, 4. Mais lorsque le moment était vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Et dans Marc 12, 6, dans la parabole, il parle du propriétaire de la vigne qui a envoyé son fils bien-aimé. Hein? Donc, il est venu, il a été envoyé. Troisièmement, il a été donné. En effet, le Dieu l'a donné. De Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En Romains 8, 32, on dit que Dieu le Père n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Il est venu, il a été envoyé, il a été donné. Alors, pleinement Dieu lui-même, Christ a été donné, il est envoyé, il est venu. Et non seulement il préexistait avant sa venue, mais il existait à toute la création, nous dit Jean 1, 1. On l'a vu. Alors, que faisait-il, ce Fils, pour ces âges sans fin de l'éternité passée avant que le temps même n'existe? Et une de ses réponses, on l'a vu, il les jouissait son père. Proverbe au chapitre 8, on trouve une personnification de la sagesse de Dieu de telle manière que pendant 2000 ans, les chrétiens ne peuvent s'empêcher de voir là le Christ préexistant. Quand ils ouvrent la Bible au chapitre 8 de Proverbe, lisons les versets 22 à 31. C'est la sagesse divine qui parle ici, personnifiée, là, et qui prend la parole. Alors, on a la sagesse divine et la deuxième personne de la Trinité qui prennent la parole ici. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Donc la sagesse divine, avant même la fondation du monde, se réjouissait en Dieu et Dieu prenait son plaisir dans la sagesse divine, ou on peut dire, le Fils se réjouissait dans le Père et le Père prenait son plaisir dans le Fils. Et cette réjouissance du Père dans le Fils avant que la création ne soit faite aide à expliquer pourquoi. En fait, ce qui pour moi est une énoncé très étonnant en Hébreux 1. Vous connaissez peut-être bien ces versets. On est là dans l'Église, on entend parler de ça. Mais il y a une phrase ici dans Hébreux 1 qui nous sautons par-dessus un petit peu trop rapidement, mais qui est spectaculaire au sujet de la gloire du Fils avant la création. Lisons les versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Vous avez vu, là? Le Père a nommé son Fils héritier de toutes choses. Et il ajoute, par lui aussi, il a créé l'univers. Alors, le fait de le désigner comme héritier vient d'abord. Ensuite, la création du monde suit de cela. Comme quoi? Comme quelque chose de prévu pour la réalisation du fait de nommer le Fils comme héritier de toutes choses. Donc, avec le fait de nommer Dieu héritier de toutes choses, Dieu fait que le monde satisfait à son plan. Ce qui signifie que Dieu a créé le monde et toute son histoire pour le donner en cadeau à son Fils, pour qu'il en soit l'héritier de toutes choses. Donc, ça, c'est le premier regard. Le Fils éternel a réjoui son Père avant la création et à partir de ce plaisir, le Père l'a désigné pour faire un monde et une histoire qui ferait grand cas de son Fils bien-aimé. Et voilà le regard numéro un. Passons au regard numéro deux. Il est devenu homme. Le Fils qui préexistait, éternellement engendré, non pas créé, est devenu homme. Non seulement a-t-il été envoyé, est-il venu et a-t-il été donné, mais il est devenu. Le texte clé ici, c'est Jean 1, 14. Et la parole, on l'a vu, c'est Jésus, deuxième personne de la Trinité, avant que le monde existe, la parole s'est faite homme et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc cette parole éternelle, que l'on a vue dans Jean 1, 1, est devenue chair, homme, c'est-à-dire, bon, il est devenu un être humain, il est humain. Il a assumé notre chair et notre sang, notre humanité. Il est devenu être humain comme nous. En 2 Corinthiens 8, 9, on lit pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche. Et c'est un homme qui s'est fait pauvre en venant parmi nous. Mais ce devenir pourrait poser un problème à nos esprits, selon la façon dont nous pensons au sens du mot devenir. Est-ce que son devenir signifie qu'il cesse d'être Dieu? Il était quelque chose et il est devenu autre chose. Est-ce que c'est ça que ça veut dire devenir ici? Est-ce qu'il s'est vidé de sa divinité pour devenir humain? Alors, croyons-nous que l'humanité et la divinité opèrent au même niveau et qu'ils sont mutuellement exclusifs? Donc, s'il est Dieu, il ne peut pas être homme. S'il est homme, il ne peut pas être Dieu. Le texte clé ici, c'est Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, au sujet de son dépouillement. Vous le savez peut-être déjà. Là, l'apôtre Paul dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains. Le verset 8, on le reprendra un peu plus tard. Mais pour le moment, qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est vidé, c'est-à-dire s'est dépouillé? Dans Philippiens chapitre 2, 3, observations à faire sur ce passage. D'abord, notez sa divinité qui est affirmée. Il a dit, lui qui est de condition divine. C'est plus clair dans le texte français. Et ça, c'est en parallèle avec la phrase « l'égalité avec Dieu ». Donc, il partageait avec le Père la divinité comme une personne divine parmi d'autres, mais à titre de Dieu à part entière. Ça, c'est le premier point à noter. Le deuxième, ce dépouillement de soi, dit Paul, relève d'une prérogative, qu'on peut dire, pas de la puissance divine. Il n'a pas saisi ou ne s'est pas accroché au doigt divin qui aurait pu l'empêcher d'entrer dans la finitude des autres limites de l'homme dans notre nom déchu et la souffrance qu'il serait sien en vertu du fait d'être humain, une créature, quoi. Et troisièmement, ce dépouillement, comme Paul le précise de la ligne suivante, était une chose qu'il prenait et non qu'il perdait. On pense à se dépouiller comme chose qu'on perd, mais ça, c'est autre chose ici. C'est qu'il a pris au lieu de perdre, car il s'est dépouillé en prenant la condition de serviteur en devenant semblable aux hommes. Alors, il se dépouille en prenant, non pas en perdant sa divinité ou en l'abandonnant ou ses pouvoirs divins, mais en assumant notre humanité. Donc, en devenant homme, il ne jette pas aux poubelles sa divinité, même si c'était possible, hein. Mais elle prend sur lui notre humanité. Il ne soustrait pas ses pouvoirs du même, mais il ajoute l'humanité à sa personne, et ainsi il est devenu homme en même temps qu'il est Dieu. Sans cesser d'être Dieu, il a ajouté l'humanité à sa personne, et il est devenu l'homme-Dieu de façon parfaitement unique. Nous n'avons pas la divinité attachée à notre personne, et Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit n'ont pas l'humanité attachée à leur personne, mais l'homme-Dieu, lui, est unique dans tout l'univers, car il a à la fois l'humanité et la divinité qui font partie de sa personnalité. Donc, en devenant homme par son incarnation, et ça, c'est le mot-clé, incarnation, et ça, ça veut dire revêtir la chair ou l'ajout de la chair humaine ou de la nature humaine à sa personne divine qui est éternelle. Donc, Jésus a pris un corps humain. Il est né. Dans la confession de foi, on dit conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a grandi et s'est fatigué parfois dans son corps humain. Il dormait. Il a eu faim et soif. Il a connu la faiblesse physique. Il a souffert. Et comme Colossiens 2:9 nous dit, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais l'humanité n'est pas seulement un corps. C'est aussi une âme ou un esprit. L'esprit humain prête pleinement homme et il a assumé toute notre humanité, corps et âme. On néglige cela parfois. Il a manifesté, et on voit clairement les évangiles des émotions humaines, le chagrin, la compassion, la colère, la joie. Il gémit. Par exemple, dans Marc 7 et 8, il est affligé, troublé, sans avoir de l'anxiété. Il est troublé. Il a pleuré. Jean 11, il a prié avec de grands cris et des larmes. Hébreux 5, verset 7. Et comme Jean Calvin l'a résumé, Christ a revêtu nos sentiments aussi bien que notre chair. Mais une âme humaine signifie non seulement des émotions, mais aussi un esprit humain. Avez-vous pensé à cela, un esprit humain, l'esprit humain de Christ? Il a grandi en stature et en sagesse, lit-on dans Luc 2, verset 52. Et comment, sinon, par rapport à un esprit humain fini qu'il a ajouté à sa personne lors de son incarnation, Jésus pouvait-il dire dans Marc 13, 32, pro de sa seconde, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. » En tant que Dieu, il savait tout, mais en tant qu'homme, il ne savait pas tout. Ce qu'il savait, il le savait sans péché, mais il ne savait pas tout dans son esprit humain, comme il ne savait pas tout par rapport à son esprit divin. Alors, nous allons peut-être pouvoir ainsi identifier une volonté humaine dans l'homme Dieu, en plus de la volonté divine qu'il a partagée avec son Père par rapport à sa divinité. Alors, Jésus peut ainsi dire dans Jean chapitre 6 et au verset 38, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Et puis, quand cela importait le plus, il a choisi, avec cette volonté humaine, d'embrasser la volonté divine plutôt que l'impulsion de préservation de la vie à laquelle la volonté humaine se donne naturellement. Lorsqu'il a dit à Gethsémané, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais avec ma volonté humaine, mais ce que tu veux. » Et maintenant, j'embrasse la volonté divine qui est également mienne, mais avec ma volonté humaine. Et on en parlera plus dans quelques minutes. Alors, il est devenu homme. Et de sorte que pour l'œil et l'oreille humain, il était tout à fait manifestement humain. Les gens ne débattaient pas dans l'Église primitive s'il s'agissait d'un homme. Ça, c'était pas discuté, c'était évident. Ce qui a posé défi, c'est comment un être humain peut être Dieu en même temps. Alors, quelle condescendance et quelle dignité accordée à l'humanité se trouve dans cette créature suprême de Dieu, puisque Dieu est devenu homme. Regarde numéro 3. Il a vécu pour la gloire de son Père. Un aspect qu'on peut facilement négliger dans sa vie humaine. Ici, le mot-clé, c'est dévotion. Il a voué ou consacré sa vie humaine sur terre à la gloire de son Père. Il est approprié qu'à sa naissance, les anges joignent aussi gloire à Dieu, et qu'à sa mort, à l'autre extrémité de sa vie humaine, un centurion romain qui était là, à la croix, il a vu rendre son dernier soupir, a entrevu la gloire divine et a loué Dieu. Lit-on dans Luc 23, 47. C'est ce que fait le centurion du début jusqu'à la fin de sa vie humaine. Il a apporté la gloire à son Père. Jésus a consacré sa vie à l'honneur et à la louange de son Père. Maintes et maintes fois dans les évangiles, l'effet rapporté de son ministère n'est pas qu'il fait le loup, mais qu'il glorifie Dieu. Marc 2, Matthieu 9, Luc 5, et en fait, glorifier Dieu est le résumé de Matthieu de tous les miracles de Jésus. On lit, par exemple, dans Matthieu 15, 31, « La foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et la foule célébrait la gloire du Dieu d'Israël. » Il a fait ces miracles de sorte à ce que cela portait gloire à son Père. Donc, l'effet de sa vie humaine, était la gloire de son Père. Mais qu'en est-il de sa propre intention, là? Qu'est-ce que Jésus avait l'intention de faire? Est-ce qu'il a dit des choses au sujet de ses intentions pendant sa vie humaine? Eh bien, il a dit dans Jean 5, 41 qu'il ne vient pas en son propre nom, mais... Bon, si, donc, pour, non pas pour sa propre gloire, autrement dit, mais en, au nom de son Père. Et il résume sa vie entière dans Jean 8, 49 en disant, « J'honore mon Père. » Et son intention de glorifier son Père devient encore plus explicite à mesure qu'on s'approche de la croix, notamment dans l'Évangile de Jean 3 fois, dans la grande prière sacerdotale de Jean 17, la veille de sa mort, il a dit, au verset 4, « J'ai révélé ta gloire sur la terre. » Verset 6, « Je t'ai fait connaître aux hommes. » Et verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Donc, son ministère de guérison, son enseignement, sa patience, sa formation de disciple, tout découlait de sa dévotion totale à la gloire, à l'honneur et à la louange de son Père. Et cela a conduit à la fois et a découlé aussi de ses diverses habitudes quotidiennes de dévotion qui ont nourri son âme humaine de son Père et ont façonné son esprit et son travail pour le Père, pour le travail que son Père lui avait donné à faire. On n'en sait pas long au sujet des habitudes quotidiennes du Seigneur Jésus dans les Évangiles, mais ce que nous savons, c'est beaucoup plus qu'on sait au sujet de n'importe qui d'autre dans la Bible. On ne sait rien au sujet de ce que faisait Isaïe dans ses dévotions quotidiennes ou Moïse, Paul, Pierre, mais nous avons beaucoup d'informations dans les quatre récits des Évangiles au sujet de certaines des façons de vivre de Jésus. C'est vraiment remarquable. Une façon de saisir qui est manifestement vraie dans la vie de Jésus, mais aussi applicable à notre vie, c'est que Jésus se consacre à la parole de son Père, les Écritures. Et à l'oreille de son Père, c'est-à-dire il priait. Et ce qu'on peut appeler le corps des croyants, c'est-à-dire le corps de son Père, dans la communion avec les fidèles. Ces trois principes forment une matrice dans laquelle Jésus a vécu sa vie humaine à la dévotion du Père. C'est vraiment frappant de rappeler la place de la parole du Père dans la vie terrestre du Fils incarné. C'était un homme qui était captivé d'abord personnellement et ensuite dans son enseignement par ce qui est écrit. Il le répète à moult reprises, par ce qui est écrit. Et dans l'épreuve dans le désert, en début de ministère, trois fois il cite les Écritures pour combattre les tentations du diable. Et dans sa ville natale, il prend le rouleau d'Isaïe et parle de son accomplissement au milieu d'eux au moment où il a parlé de son cousin Jean comme étant celui dont il est écrit, le nouvel Élisée. Et il a cité l'Écriture alors qu'il nettoie le temple des chargeurs. Et il cite les Écritures alors qu'il lutte contre les fiers pharisiens. Chaque pas qu'il mène vers le calvaire, disait-il, était comme il est écrit. Donc la parole de son Père dans l'Écriture a joué un rôle central dans sa vie. C'est un homme de la parole de Dieu, mais également, une autre chose que l'on voit dans sa vie, c'est sa façon qu'il prenait de retraite pour la prière et ensuite revenait pour exercer le ministère. Regardez ça dans les évangiles, c'est souvent à quel point il s'en va dans un endroit désert ou tranquille et ensuite revient pour exercer le ministère. Jésus était un homme de prière qui se prévalait de l'oreille de son Père, son écoute, s'éloignant souvent des événements de la vie quotidienne, de la vie urbaine ou citadine, pour rencontrer son père dans le désert et encore une fois, il a les yeux désolés pour prier souvent seul. Mais parfois aussi, il amenait ses hommes et il leur enseignait d'en faire autant, cette façon de s'écarter pour prier au Père. Par exemple, il dit à ses disciples dans Marc 6, 31, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Et dans ces moments-là, en plus de dans son investissement quotidien auprès de ses disciples, il profitait de communion fraternelle du corps des fidèles, ce qui est une façon d'atteindre la grâce de Dieu qui est souvent négligée de nos jours. Jésus a puisé une force sainte pour son âme et a subi une formation sainte à travers la vie des fidèles. Donc, quand on considère sa vie de dévotion à son Père, nous trouvons, au fond, un homme de parole et de prière que l'on peut imiter, n'est-ce pas? Et même l'homme Dieu s'est prévalu des moyens quotidiens de grâce de Dieu pour le bien de son âme par des habitudes d'accès et de répétition de la parole de Dieu et du fait de l'approcher dans la prière tout en vivant dans la communion fraternelle de ceux qui aussi étaient voués à Dieu. Regarde numéro 4. Il s'est humilié. Cet homme qui a vécu d'une façon vouée à la gloire de son Dieu s'est humilié. Alors, revenons à Philippiens chapitre 2 et on va inclure le verset 8, mais reprenons à partir du verset 6. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains reconnus comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Trois des mots les plus remarquables, la Bible chez Dieu lui-même en sous forme humaine. Il s'est humilié. Jésus s'est humilié non seulement au moment suprême, comme on va le voir, mais ça a été toute une vie d'obéissance à son Père. Donc, pour le regard numéro 4, le mot-clé, c'est soumission. Un mot très populaire de nos jours, n'est-ce pas? Se soumettre signifie accepter ou céder à la volonté ou l'autorité d'une autre personne. Premièrement, en devenant humain, Jésus s'est soumis. Comme enfant, il s'est soumis à l'autorité de ses parents. Luc 2, verset 50, et après sa visite au temple à l'âge de 12 ans, où il a impressionné les gens du fait de poser des questions avec les dirigeants du temple, Luc fait dire, il est descendu avec eux pour aller à Nazareth et leur fut soumis. Pas seulement le bébé de 5 ans, mais Jésus de 12 ans. Presque un homme qui a étonné les gens de Jérusalem retourne à Nazareth et devient soumis à ses parents. En vertu du fait de devenir humain, il est entré dans diverses relations humaines et dans des contextes dans lesquels il devait avoir une disposition à céder. Et savez-vous, il n'y a rien de déshumanisant dans une telle soumission prévue par Dieu. En fait, rien d'inconvenant à Dieu lui-même dans le fait d'être en chair humaine. La soumission, peut-on dire, est en fait humanisante parce qu'elle reconnaît les limites de nos connaissances, de nos forces et de nos capacités. Elle reconnaît aussi les appels ordinaires donné par Dieu, qui nous a communiqué de diverses façons et qui embrasse notre humanité. Pour nous, nous embrassons en ne faisant pas semblant d'être Dieu lorsque nous soumettons comme il faut. Mais Jésus était Dieu, ce n'était pas tout à fait la même chose. Et bien qu'il fût Dieu, il était aussi humain. Et en ce qui concerne sa vie humaine, Il a accepté à bon droit et a cédé avec justice à la volonté de ceux à qui il était assigné à se soumettre, comme ses parents. Mais bien sûr, sa soumission la plus grande et la plus déterminante était à la volonté de son Père. Bon, on a déjà vu dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, comme un agent de volage, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Tout au courant de la vie de Jésus, dont le point culminant a commencé dans le jardin de Gethsémani, il a choisi de soumettre sa volonté humaine naturelle à la volonté de son Père. Et en quelque sorte, il était en formation pour cela pendant toute sa vie. Il entraînait sa volonté pour Gethsémani pendant toute sa vie, entraînant sa volonté humaine non seulement pour s'éloigner du péché, mais vers la volonté de son Père. Et alors qu'il priait dans le jardin, « Père, que ne soit pas ma volonté, mais la tienne », il achève ainsi le projet de toute une vie de s'humilier lui-même, et il le fait là au moment le plus critique. Judas est sur le point de se pointer dans le jardin. Les gardes vont venir saisir Jésus. Le choix ne pourra plus être fait une fois les gardes sur place. Mais jusqu'à ce qu'ils arrivent, il peut choisir. Mais il choisit de demeurer et de s'humilier. Et quand les gardes arrivent, et qu'il est pris dans une détention injuste, s'étant complètement humilié, il sera complètement humilié, calomnié, faussement accusé, injustement battu, flagellé, crucifié. Mais pas vraiment contre son gré, mais par choix. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Dans au moins trois passages, contextes distincts dans les enseignements de Jésus, il y a une ligne qu'il répète. Hein. Je me demande si ceux qui le suivaient, quand il a commencé à le dire, ils savaient comment le compléter, parce qu'il répétait, « Quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc, un de ses enseignements les plus répétés. Mais non seulement l'a-t-il enseigné, mais il l'a vécu. Il l'a vécu, il s'est humilié lui-même. Et il s'attendait au moment et à l'initiative du Père pour l'exalter. Le point 5, le regard numéro 5. Il est mort pour des péchés qui ne sont pas les siens. À ce moment-ci du récit, on pourrait se demander pourquoi un tel homme a-t-il été exécuté? Il ne méritait pas de mourir. En fait, c'est la seule vie humaine dans l'histoire du monde qui n'a pas mérité la mort. La seule vie humaine sans péché. Et ici, le mot clé. Le terme clé, c'est substitution. Sa mort, tout comme le système sacrificiel en Israël, qui opérait depuis des siècles, remontant à Moïse, était un système de substitution. Une partie innocente, un oiseau, un agneau, un taureau sans tache, servait de substitut au coupable. Et aux tâches que portaient les êtres humains. Donc, dans l'ancien Israël, Dieu a ordonné, a permis qu'au terme de la première alliance, les animaux sacrificiels qui ne méritaient pas eux-mêmes la mort pouvaient se substituer, remplacer pour le peuple de Dieu qui avait péché, lui. La réalité du péché exigeait des comptes. Le péché est une attaque contre la gloire de Dieu, un assaut contre Dieu lui-même. Le péché, au cœur, est la préférence d'autres choses à Dieu, ce qui le déshonore profondément. C'est une trahison cosmique. Le péché ne peut pas simplement être balayé sous le tapis sans que Dieu lui-même méprise sa propre gloire et sa valeur de par là. Ainsi, Dieu a conçu dans sa grâce une mesure temporaire par laquelle le péché de son peuple pourrait traité sans que le peuple encoure lui-même la mort. Donc, pendant des siècles, le peuple de Dieu a vu cette disposition comme une grâce étonnante dans leur vie et aussi comme une anticipation de quelque chose de plus grand. Ça touchait quelque chose qui devait être réglé. Après tout, dans le décompte final, comme on dit à Hébreux 10, 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève le péché. Bon, peut-être que leur sang pouvait enlever leur péché s'ils en avaient. Mais c'est du sang humain qui serait nécessaire pour payer le péché des hommes. Le sang ici signifie la mort. Hein? Et pendant des siècles, l'effusion du sang sacrificiel en Israël avait anticipé un sacrifice inimaginable une fois pour toutes. Il se produirait, devait se produire pour assurer la pleine acceptation par Dieu de son peuple pécheur, et cela à tout jamais. Bon, ça aurait été une chose pour Jésus lui-même avant la croix de dire qu'il donnerait sa vie en rançon pour plusieurs, ou pour ses apôtres, Pierre, Jean, Paul ou autres, de l'expliquer plus tard en plus de détails. Ça, c'est une possibilité. Mais remarquablement, cette révélation qu'un seul sacrifice humain pourrait en quelque sorte suffire pour les péchés de beaucoup est venu 7 siècles avant la naissance de Jésus dans la bouche d'Ésaïe. Il nous parle d'un serviteur souffrant à venir, qui était méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et habitué à la douleur. Et comme quelqu'un dont on cache la face, il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. La question se pose alors, pourquoi cet homme a-t-il été méprisé et rejeté? Était-ce pour ses propres échecs qui faisait qu'il méritait ce mépris, ce rejet? Mais non, pas pour des péchés de sa propre cruauté. Isaïe alors ose marcher là où Moïse ne faisait qu'indiquer. On lit dans Isaïe 53, versets 4 à 6. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. On n'a pas compris. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures, que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Ce sont nos peines qui ont fait de lui un homme de douleur. Nos chagrins l'ont fait connaître la douleur. Il a été percé, il a saigné pour nos transgressions. Il a été écrasé, il est mort pour nos iniquités. Il a été blessé par des hommes afin que les hommes croyants puissent être guéris devant Dieu. Nous, qu'il sauve, en fait, sommes les pécheurs, pas le sauveur. Pourtant, sur celui qui était juste et sans tache, Dieu a fait retomber nos iniquités. C'est là la substitution. Dieu a condamné nos péchés dans la chair humaine de Jésus-Christ. Alors, en clôturant cette première séance, souvenez-vous que Jésus a choisi cela. Ce n'était pas de l'abus cosmique. Jésus a choisi. Sa soumission n'a pas été sans joie. Son obéissance n'était pas sans volonté. Il n'a pas seulement enduré la mort, pour ceux qui croiraient. Ils l'ont embrassé. Hébreux 12:2 nous dit, en échange de la joie qui lui était réservée, ou en vue de la joie qui était réservée, les deux possibilités sont dans le texte, il a souffert la croix. Et je ne serais pas surpris si Hébreux s'appuyait sur ce Isaïe, se dit dans Isaïe 53:11, une affirmation stupéfiante. Après tant de troubles, il verra la lumière à ses réalisations. Après tant de troubles, Gethsémané, la croix, il verra la lumière et sera satisfait pour la joie qui lui est réservée. Il a enduré la croix. Alors, ce qui a soutenu Jésus ce vendredi saint sombre, que nous appelons en anglais le bon vendredi, le vendredi saint, à cause de la subsession dans le jour le plus horrible de l'histoire du monde, qu'est-ce qui l'a soutenu? C'était sa joie. Il a vu l'avenir était suffisamment satisfait à l'effet que la joie qu'il pouvait goûter dans le présent pouvait le soutenir à travers l'agonie, la détresse et l'angoisse, la douleur de la croix. Donc, contrairement aux animaux qui se sont temporairement substitués au peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, Jésus l'a voulu avec sa volonté humaine. Et il l'a même embrassé. Il lui a plu de donner sa propre vie en substitution pour celle des pécheurs, pour la joie du grand nombre de ceux qui croiraient, pour la gloire de son Père. Et nous pouvons donc nous dire quel amour merveilleux. Père du ciel, alors que nous terminons cette première séance et c'est le premier. Cinq premiers regards sur Jésus, nous sommes étonnés devant l'homme Dieu, non seulement dans sa déité éternelle, sa préexistence et dans le fait qu'il s'est abaissé, s'est incarné pour devenir homme et la façon qu'il s'est voué à ta gloire seule comme exemple et la façon qu'il s'est humilié, s'est soumis à toi, mais aussi le fait remarquable qu'il était à la croix pour des péchés qui ne sont pas les siens. Père, nous te remercions pour Jésus, nous te remercions pour la porte du salut qui est maintenant ouverte, car il a embrassé avec sa volonté humaine la souffrance de la croix pour nous. Et dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.